Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un roman de guerre, un roman fleuve, rédigé sans doute pour être entendu. Entendu par des auditeurs qui ne furent jamais des optimistes béats. Écrit pour une représentation à une seule voix, oui, roman de guerre, mais aussi œuvre théâtrale. Parmi les nombreux personnages, une déesse aux yeux pairs, un combattant aux pieds légers, l'égal des dieux, une déesse aux bras blancs, beaucoup de querelles, de combats et de meurtres. Le tout rédigé 9 siècles avant Jésus-Christ, première diffusion de ce plaisir de la lecture sur France 3 Nationale, le 28 mars 1961.
Plaisir de la lecture. Monsieur Robert Flacelière, professeur à la Sorbonne, a choisi la lecture de l'Iliade d'Homère. L'interprétation des textes dans la traduction de Monsieur Flacelière sera faite par Jean Gélibert. Écoutons Monsieur Robert Flacelière.
La guerre de Troie n'aura pas lieu, titrait plaisamment Giraudoux. Pourtant, elle a eu lieu. Mais l'image que nous en donne Homère n'est sans doute pas tout à fait ressemblante. Les Achéens, commandés par le roi des rois Agamemnon, sont-ils partis vers Troie uniquement pour reconquérir la belle Hélène et venger l'honneur de Ménélas? Les historiens modernes en doutent. Ils expliquent que les Achéens, c'est-à-dire les Grecs de l'époque mycénienne, dont la civilisation appartient encore à l'âge du bronze, étaient un peuple belliqueux et conquérant, possédant une puissante marine qui lui avait permis, notamment, vers 1400 avant Jésus-Christ, de mettre fin à la thalassocratie minoenne et de s'emparer du palais de Knossos. La Crète conquise avait alors conquis son farouche vainqueur. Je veux dire, les rudes Achéens, découvrant en Crète une civilisation bien supérieure à la leur, lui avaient fait de larges emprunts, et c'est pourquoi la civilisation mycénienne d'Argolide et de Grèce propre est à bien des égards la fille de la civilisation minoenne de la grande île crétoise. Ensuite, les Achéens se répandirent un peu partout en Méditerranée, des îles éoliennes, Liparie jusqu'à Rhodes et à Chypre, mais surtout en Asie mineure. Or, la ville de Troie, appelée aussi Ilion, commandait le détroit de l'Hellespont, les Dardanelles, qui donnait accès à la mer de Marmara, au Bosphore et à la mer Noire. L'importance stratégique et commerciale de la cité de Priam était de tout premier ordre. Et voilà la raison, prosaïquement économique et militaire, pour laquelle plusieurs bandes d'Achéens, réunies sous l'autorité provisoire et fragile d'un chef de guerre, entreprirent l'expédition de Troie. Toutefois, nous le savons, le casus belli invoqué par l'assaillant est rarement la cause profonde et réelle de l'attaque. Pourquoi la diplomatie d'Agamemnon, cherchant un prétexte pour s'en prendre à une ville si bien située et si riche, dont les trésors promettaient un pillage si fructueux, n'aurait-elle pas invoqué et au besoin fabriqué cette histoire d'enlèvement et d'adultère dont la poésie d'Homère allait faire un si beau, un si poétique roman? Un roman. En effet, l'Iliade d'Homère est d'abord un roman de guerre, de même que son Odyssée est d'abord un roman d'aventure. Il s'agit de poèmes. L'Iliade contient plus de 15 000 vers, tout simplement parce qu'à cette époque, on ne pouvait imaginer aucun autre moyen d'expression littéraire. La prose littéraire en Grèce ne devait naître que beaucoup plus tard, et les premiers savants et philosophes écrivirent eux-mêmes en vers. L'Iliade est donc une sorte de roman fleuve, où le narrateur, Homère, raconte les exploits de ses héros, surtout Achille, Diomède, Ajax, Patrocle, et du côté troyen Hector et Énée, en y mêlant, autant que cela est possible dans un roman de guerre, un certain nombre de femmes qui s'appellent Hélène, Hécube, Andromaque, Briséis, car Homère savait bien qu'un roman ne peut guère se passer de personnages féminins pour intéresser le public des auditeurs ou des lecteurs. Des auditeurs d'abord, car l'Iliade fut certainement composée non pour être lue, mais pour être récitée par les Aèdes et les Rhapsodes qui s'accompagnaient de la lyre pour soutenir leur déclamation. Il s'agissait d'une sorte de représentation dramatique à une seule voix, genre très attachant, où excella par exemple un Jacques Copeau. En effet, si l'Iliade est un roman, elle est aussi et en même temps une œuvre théâtrale. Non seulement parce qu'elle fait plus de place au dialogue des personnages que la plupart de nos romans, non seulement parce que tout le théâtre grec, d'Eschyle à Euripide, procède directement d'Homère, ce sont là des raisons vraies, mais superficielles. La cause profonde pour laquelle l'Iliade, comme l'Odyssée, est un drame épique, l'expression est de Victor Bérard, c'est Aristote qui l'a aperçu le premier et qui l'a exprimé en disant « C'est autour d'une action une qu'Homère a composé son Odyssée et aussi son Iliade ». L'unité d'action est une loi bien connue du théâtre. Si Homère, comme les autres poètes du cycle épique, avait raconté par exemple toutes les aventures d'Achille de sa naissance à sa mort, il aurait fait une sorte de roman biographique en vers, mais non une tragédie. De même, s'il avait raconté d'un bout à l'autre la guerre de Troie qui a duré 10 ans, son récit aurait forcément manqué de concentration dramatique. Au lieu de cela, il a choisi un épisode, le plus dramatique, le plus tragique à son gré, la colère d'Achille. Et il en a fait le sujet unique de son poème, dont toute l'action tient en quelques semaines. Depuis l'arrivée du prêtre Chrysès au camp des Grecs, au début du chant 1, jusqu'aux funérailles d'Hector à la fin du chant 24, il s'écoule moins de 2 mois. Mais le temps lui-même ne fait rien à l'affaire. Ce qui importe surtout, c'est que le thème posé au début commande toute la suite du poème et, quoi qu'on en ait dit, n'est jamais perdu de vue. Achille offensé se retire du combat. Dès lors, Zeus, supplié par Thétis, mère du héros, donne la victoire aux Troyens, qui arriveront jusqu'aux vaisseaux achéens et commenceront à les incendier. Alors, c'est la péripétie. Achille, qui avait tout refusé jusque-là à Agamemnon et à ses ambassadeurs, envoie au combat son ami Patrocle, revêtu de ses armes à lui, Achille. Patrocle redresse momentanément la situation, mais il est tué par Hector. Dès lors, dans l'âme d'Achille, qui est le siège du drame, le désir de venger son ami bien-aimé l'emporte sur tout autre sentiment, même sur la rancune à l'égard d'Agamemnon et des Achéens qui n'ont pas soutenu Achille. Pour tuer Hector, il faut retourner au combat. Au 5e acte de la tragédie, quand le père d'Hector a obtenu qu'Achille lui rende le cadavre de son fils, la pièce, je veux dire l'Iliade, est finie. Homère ne se soucie pas de nous raconter la suite, la mort d'Achille tué par Paris, la prise d'Ilion grâce au stratagème du cheval de bois. Il connaît ces événements, auxquels il fait de claires allusions dans l'Iliade ou dans l'Odyssée, mais il a limité son sujet à la colère d'Achille. La colère contre Agamemnon à cause de l'épisode de Patrocle engendre la colère contre Hector. Quand celle-ci est morte à son tour, une fois la vengeance obtenue, le poète de génie laisse à ses successeurs, à ses épigones, le soin de raconter dans leurs vers appliqués et médiocres les événements qui relient l'Iliade à l'Odyssée, comme ceux qui ont précédé l'Iliade et ceux qui ont suivi l'Odyssée. Et pourtant, d'innombrables volumes ont été écrits depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, et il s'en écrit encore, je pense, au moment où je parle. Pour montrer qu'Homère n'a jamais existé, ou, s'il a existé, qu'il n'est l'auteur que d'une petite partie de l'Iliade et de l'Odyssée. C'est à croire que les érudits ont vraiment du temps à perdre. Comme l'a écrit plaisamment Bernard Shaw, l'Iliade et l'Odyssée ne sont pas d'Homère, mais d'un poète qui porte le même nom que lui. Voici le début du poème. L'invocation à la muse qui indique clairement le sujet.
Déesse, chante-nous la colère d'Achille, de ce fils de Pélée, colère détestable, qui valut aux Argiens d'innombrables malheurs, et jeta dans l'Hadès tant d'âmes de héros, livrant leur corps en proie aux oiseaux comme aux chiens. Ainsi s'accomplissait la volonté de Zeus. Commence à la querelle où deux preux s'affrontèrent, l'Atride, chef de peuple, et le divin Achille.
Ensuite, Agamemnon refuse de rendre la captive Chryséis à son père Chrysès, qui est prêtre d'Apollon. Ce dieu envoie alors une épidémie sur l'armée qui est décimée par le fléau. Achille convoque l'assemblée, le devin Calchas proclame la volonté d'Apollon, la peste ne cessera que si Agamemnon rend Chryséis à son père.
Dès qu'il a dit ces mots, le devin se rassied. Le héros fils d'Atrée, Agamemnon, puissant seigneur, alors se lève. Il est plein de dépit, une sombre fureur bouillonne en sa poitrine. Ses yeux étincelants semblent lancer des flammes. Il jette sur Calchas un terrible regard et l'interpelle ainsi. « Prophète de malheur, jamais tu n'as rien dit qui me fût agréable. C'est le pire qu'il te plaît toujours d'annoncer, et jamais rien de bon ne sort de tes paroles. Et voici qu'aujourd'hui tu viens vaticiner parmi les Danaïns. J'aurais causé les maux dont nous frappe l'archer pour avoir refusé la splendide rançon et gardé Chryséis. C'est vrai, j'aime bien mieux la conserver chez moi. Je la préfère à mon épouse Clytemnestre, car elle la vaut bien pour la beauté, la taille et l'esprit et l'adresse. Et pourtant, s'il le faut, je consens à la rendre, car je veux le salut de l'armée, non sa perte. Mais procurez-moi vite une autre part d'honneur, que je ne sois pas seul parmi les Argiens, dépouillé de mon lot. Cela ne saurait être. Car, vous le voyez tous, ma part au loin s'en va. Lors le divin Achille au pied léger répond. Atride glorieux, pour la cupidité tu n'as pas ton pareil. Comment les Achéens au grand cœur pourront-ils te donner une part? Nous n'avons en réserve aucun trésor commun puisqu'il fut partagé tout entier, le butin tiré des villes prises. Convient-il que chacun le rapporte à la masse? Pour toi, dès maintenant, cède au dieu cette fille, et nous, les Achéens, nous te rendrons 3 fois, 4 fois sa valeur, si jamais Zeus permet que nous ravagions Troie, la ville au bon rempart. En réponse, le grand Agamemnon lui dit, « Non, non, n'essaie pas de ruser avec moi, malgré tout ton courage, Achille égal au dieu. Tu ne pourras ni m'abuser ni me convaincre. Désires-tu, quand toi tu garderas ta part, que je demeure ainsi dépouillé de la mienne? Sinon, me dirais-tu de rendre cette fille? Ah, si je recevais des Argiens au grand cœur une part qui me plût, égale en valeur, soit! Si l'on me la refuse, il me faudra moi-même aller prendre ta part, ou bien celle d'Ajax, ou bien celle d'Ulysse, et l'on verra comment il se courroucera, celui chez qui j'irai. Mais à cela nous songerons une autre fois. Allons pour aujourd'hui, que sur la mer divine, on lance un noir vaisseau, rassemblons des rameurs en nombre, sur la nef, plaçons une hécatombe, faisons monter à bord la belle Chryséis, puis désignons un chef parmi ceux du conseil, Ajax, Idoménée, ou le divin Ulysse, ou toi, fils de Pélée, l'homme entre tous terrible, pour faire un sacrifice et de l'archer, enfin regagner la faveur. » Achille, au pied léger, lui jette un regard sombre et lui dit en réponse. « Ah, vraiment, cœur bardé d'impudence, âpre au gain, comment un Achéen pourrait-il t'obéir volontiers, que ce soit pour marcher ou combattre? Car enfin, si je suis venu lutter ici, moi, du moins, ce n'est pas par haine des Troyens. Que m'ont-ils fait à moi? Jamais ils n'ont ravi mes bœufs ni mes chevaux, jamais on ne les vit saccager les moissons dans le pays fertile et riche de la Phtie. La distance qui nous sépare est bien trop grande. Entre nous, tous ces monts ombreux, la mer sonore, c'est toi que j'ai suivi, toi, le plus impudent des hommes, pour te plaire, afin que Ménélas et toi, face de chien, vous puissiez des Troyens tirer votre vengeance. Mais combien tu t'en moques? Tu viens me menacer de confisquer le lot que m'ont attribué les fils des Achéens pour prix de tant d'efforts. Pourtant, ma part jamais n'est égale à la tienne lorsque les Danaïns mettent à sac un bourg opulent des Troyens. Du combat bondissant, presque tout le fardeau retombe sur mes bras. Mais quand vient le partage, alors c'est toi qui prends le plus splendide lot. Il est petit, celui que vers mes nefs j'emporte, après avoir assez peiné dans la bataille, et j'y tiens d'autant plus. Mais cette fois je vais repartir pour la Phtie, car il vaut beaucoup mieux que je rentre chez moi sur mes nefs recourbés. Il n'est pas de mon goût de demeurer ici, privé de tout honneur, lorsque pour toi j'amasse abondance et richesse. Le chef de peuple Agamemnon réplique alors. Fuis si le cœur t'en dit. Ce n'est certes pas moi qui vais te supplier de rester pour me plaire. D'autres assez nombreux soutiendront mon honneur. D'abord le prudent Zeus. Toi, parmi tous les rois divins, je te déteste. Ce qui te plaît le mieux, c'est toujours la querelle et la lutte et la guerre. Immense est ta vigueur, mais tu la tiens d'un dieu. Ramène donc chez toi tes nefs et tes guerriers. Commande aux Myrmidons. Moi, je me moque bien de toi, de ta colère. Écoute ma menace. Si Phébos Apollon m'enlève Chryséis, et je vais l'envoyer avec mes compagnons sur un navire à moi, moi-même alors, j'irai jusqu'à ton campement pour te prendre ta part, la belle Briséis. Ainsi tu comprendras combien je te domine, et les autres craindront de me traiter dans leurs propos comme un égal et de me tenir tête. Il dit. Le Péléide à ces mots s'assombrit. Son cœur reste indécis en sa mâle poitrine. Va-t-il saisir le glaive aigu qu'il porte au flanc et, chassant les Argiens, tuer le fils d'Atrée? Ou bien se contenir et calmer sa colère? Tandis qu'en son esprit il roule ses pensées et déjà du fourreau tire sa grande lame, Athéna vient à lui des profondeurs du ciel. C'est Héra qui l'envoie, la déesse aux bras blancs, qui veille avec amour sur l'un et l'autre chef. Debout derrière Achille, elle saisit les blonds cheveux du Péléide. Visible pour lui seul, elle échappe au regard de tous les autres hommes. Achille, stupéfait, se retourne. Aussitôt, il reconnaît Pallas, la divine Athéna. Ses yeux brillent. Terrible. Regardant la déesse, il dit ces mots ailés. Fille de Zeus, le porte Égide, que fais-tu? Viens-tu pour contempler l'insolence du fils d'Atrée, Agamemnon? Mais je vais t'annoncer ce qui s'accomplira. Sa vanité bientôt lui coûtera la vie. La déesse aux yeux pères, Athéna lui répond. Du haut du ciel, j'accours pour te persuader de calmer ta fureur. C'est Héra qui m'envoie, la déesse aux bras blancs, qui veille avec amour sur toi comme sur lui. Finis cette querelle, allons, et que ton bras ne tire pas l'épée. Ne te sers que de mots, abreuve-le d'injures, dis-lui ce qui l'attend, car je vais t'annoncer ce qui s'accomplira. Pour prix de cette offense, un jour, tu recevras de splendides présents d'une triple valeur. Contiens donc ta fureur, Achille, obéis-nous. Lors, lui dit en réponse Achille au pied léger. Il me faut observer les ordres de vous deux, déesse, quel que soit le courroux de mon cœur. C'est le meilleur parti, l'homme docile à leurs désirs, les dieux l'exaucent. Il dit, obéissant à la voix d'Athéna, sur le pommeau d'argent, il retient sa main lourde et repousse dans le fourreau sa grande épée. La déesse déjà vers l'Olympe repart et va dans le palais du porte Égide, Zeus, se joindre aux autres dieux. Et le fils de Pélée, une nouvelle fois, s'attaque au fils d'Atrée en termes insultants, car il est loin d'avoir apaisé sa colère. Sac à vin, homme à l'œil de chien, au cœur de cerf. revêtir ta cuirasse au milieu de l'armée, te mettre en embuscade avec les preux argiens, tu n'en as pas le cœur. Ah, tu te croirais mort. Il vaut certes bien mieux ne pas quitter le vaste camp des Achéens et confisquer le bien de qui te parle en face. Roi, mangeur de ton peuple, il n'est pour t'obéir que des hommes de rien. Autrement, fils d'Atrée, ce serait aujourd'hui ton ultime forfait. Mais je le dis tout net, et je vais en jurer un solennel serment. Ce sceptre en soit témoin, qui ne portera plus de feuilles ni de branches, et séparé du tronc resté dans la forêt, ne refleurira plus. Le bronze en a tranché le feuillage et l'écorce. Le voici maintenant aux mains des Achéens justiciers et gardiens du droit au nom de Zeus. Ce sera là pour toi le plus grave serment. Un jour, tous les Argiens regretteront Achille. Alors, dans ta douleur, tu seras impuissant quand, nombreux sous les coups de l'homicide Hector, ils tomberont mourants. Le dépit rongera ton cœur dans ta poitrine pour avoir outragé le meilleur des Argiens.
J'ai parlé des femmes de l'Iliade. Hélène est la plus inquiétante et Andromaque la plus touchante. Mais les scènes où elles paraissent sont trop connues. Citons plutôt la lamentation de l'humble Briséis, captive d'Achille, sur le cadavre de Patrocle.
Dès qu'elle voit Patrocle, déchiré par le tranchant du bronze, Briséis, qu'on prendrait pour Aphrodite d'or, sur lui se laisse choir, pousse une plainte aiguë, et de ses mains meurtrit sa poitrine, son cou tendre, son beau visage. Aussitôt cette femme, aux déesses pareille, en pleurant dit ces mots. Patrocle, toi l'ami le plus cher à mon cœur dans mon cruel destin, à mon départ d'ici je t'ai laissé vivant, et je t'y trouve mort, conducteur de guerriers, le jour de mon retour. Pour moi, le malheur suit sans trêve le malheur. L'homme qui me reçut de mes nobles parents, je l'ai vu déchiré par le tranchant du bronze, en avant de ma ville, avec mes frères, ceux que me donna ma mère, mes trois frères chéris, que le sort implacable atteignit tous ensemble. Pourtant, même en ce jour où le rapide Achille eut tué mon époux, et du divin Minès ravager la cité, tu ne me laissais pas verser des flots de larmes, mais tu me promettais que du divin Achille tu me ferais bientôt l'épouse légitime, et qu'il m'emmènerait sur ses nefs, dans la Phtie, où la noce aurait lieu parmi ses myrmidons. C'est pourquoi sur ton corps je verse tant de pleurs, ami toujours si doux.
Je crois que le sentiment le plus profond qu'a éprouvé Homer et qu'il nous inspire par ses chants, c'est la pitié. Les Grecs ne furent jamais des optimistes béats et Homer moins que tout autre. Ils savaient que la condition humaine est dure et que les dieux donnent aux hommes plus de maux que de biens. Et cette vie est si brève, surtout à la guerre. Le poète le constate, sur terre, les humains passent comme les feuilles et le vent fait tomber les unes sur le sol. La forêt vigoureuse au retour du printemps fait pousser bien d'autres. Chez les hommes, ainsi, les générations l'une à l'autre succèdent. Une des scènes, célèbre certes, où s'exprime le mieux cette pitié d'Homère, c'est l'entretien d'Achille et de Priam, père d'Hector, au champ 24.
Lorsqu'un mortel, en proie à la pesante faute, après avoir dans son pays commis un meurtre, arrive brusquement à l'étranger dans la maison d'un homme riche, une stupeur saisit tous ceux qui l'aperçoivent. Même stupeur saisit Achille à voir Priam semblable aux immortels. Même stupeur aussi prend les autres, et tous se regardent entre eux. Alors Priam supplie Achille en lui disant: souviens-toi de ton père, Achille égal aux dieux. Du même âge que moi, voici qu'il est au seuil maudit de la vieillesse. Peut-être de cruels voisins l'entourent-ils, et personne n'est là pour écarter de lui le péril, la détresse. Mais il a, lui du moins, au fond du cœur, la joie de te savoir vivant, et chaque jour, il peut espérer voir son fils revenir d'Ilion, tandis que moi, je suis au comble du malheur. J'ai dans la vaste Troie engendré des fils braves, mais de ceux-là, je vois, il ne me reste aucun. Lorsque sont arrivés les fils de l'Achaïe, j'en possédais 50, 19 d'un même sein, tandis qu'en mon palais les autres me sont nés de mères différentes. À la plupart d'entre eux, l'impétueuse Arès a brisé les genoux. Je n'avais plus que lui. Lui seul. Pour protéger mon peuple et ma cité. Tu viens de le tuer, alors qu'il combattait pour sa patrie. Hector. C'est à cause de lui que je viens maintenant aux nefs des Achéens, pour te le racheter. Voici que je t'apporte une immense rançon. Va, crains les dieux, Achille, et prends pitié de moi. Souviens-toi de ton père. Mon sort plus que le sien encore est pitoyable, puisque je viens d'oser ce que nul jusqu'ici sur terre n'avait fait. À mes lèvres porter les mains du meurtrier de mes propres enfants.
Bien sûr, il y a dans l'Iliade beaucoup de grands coups d'épée et de lance, qui pourraient faire croire bien à tort à une certaine cruauté du poète. Dans la description des combats, des blessures et des meurtres, Homère apporte un réalisme et une variété admirables. Si l'on fait attention aux détails, il n'est jamais lassant ni monotone. Mais enfin, on a le droit de ne pas aimer par-dessus tout les romans de cap et d'épée. On peut s'en douter déjà, par ce que j'ai dit de la conception générale du sujet de l'Iliade, le véritable intérêt d'Homère va à la peinture des caractères et des sentiments, et là, il reste inimitable. Ce que l'on appelle aujourd'hui si lourdement la psychologie, il en fait, lui, de façon profonde, mais toute naturelle, sans paraître y toucher, en prêtant toujours à ses personnages les actes et les discours les plus justes et les plus pleins de sens. Les nombreuses comparaisons qu'il emploie sont souvent des tableaux d'un art merveilleux qui nous renseignent sur la civilisation contemporaine du poète, celle du IXe siècle avant Jésus-Christ, car il a vécu à l'âge du fer, 4 siècles environ après les héros dont il chante les exploits. Ces comparaisons sont d'une liberté et d'une fantaisie stupéfiantes. Au chant 17, Ménélas est comparé successivement à une vache qui vient de mettre bas, puis à une mouche. Bien sûr, pour lire aujourd'hui de bout en bout un auteur ancien, fut-il Homère, il faut un petit effort de volonté, qui est inutile pour les bons auteurs contemporains. Les goûts, les mœurs, les modes ont tellement changé depuis tant de siècles. Mais il serait bien dommage de refuser ce léger effort qui sera source de joie profonde. Profitons donc d'un week-end comme Ronsard. Je veux lire en 3 jours l'Iliade d'Homère, et pour ce Coridon, ferme bien lui sur moi. Relisons ce roman fleuve épique d'un bout à l'autre, en nous plongeant dans cette eau tumultueuse et vivante comme celle du Scamandre, et nous constaterons que seuls ont vieilli quelques habitudes de style, celles qu'imite drôlement Bloch chez Marcel Proust, surtout l'épithète dite homérique, Athéna aux yeux pères, Achille aux pieds rapides. Homère l'appelle ainsi même lorsque le héros est assis dans sa baraque, comme traduisait Paul Mazon. Si nous savons briser l'os pour atteindre la moelle, aucun poète, j'en suis sûr, ne nous paraîtra aussi grand ni aussi actuel que le vieux chantre aveugle qui vécut dans l'île de Chios il y a environ 28 siècles.
Nos auditeurs ont entendu M. Robert Flacelière, professeur à la Sorbonne, qui nous parlait de l'Iliade d'Homère. Quelques pages de l'Iliade dans la traduction de M. Flacelière ont été interprétées par Jean Gilibert. Notre émission « Plaisir de la lecture » est terminée.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 28 mars 1961. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.